Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Puis après ça, c'est là qu'il part du bord à pied. Puis là, il fait le chemin là, d'où la caméra du FlexiGym au coin de la rue du Port, puis après ça, le souterrain.
Un mois depuis la disparition de Jesse Duchesneau.
Jesse Duchesneau.
Les proches de Jesse Duchesneau ne ménagent aucun effort pour le retrouver.
C'est un deuil à faire dans la vie, là, c'est parce que t'as besoin de l'avoir physiquement, t'as besoin de... Tu peux pas rester dans le néant puis dire « Hey, dans un an, deux ans, six mois, il va refaire sur face, n'importe quoi. » Tu peux pas rester comme ça, là. Ça n'a aucun sens.
Jesse Duchesneau, de 19 ans, a disparu dans la ville de Québec dans la nuit du vendredi 3 novembre au samedi 4 novembre vers 4h du matin dans des circonstances assez étranges, mais aussi assez familières. Restez là.
Les bénévoles de l'organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec continuent d'appuyer les membres de la famille dans leur recherche d'indices sur le terrain. Mais le pire des scénarios est de plus en plus envisagé.
Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une courte histoire de disparition assez nécessaire qui m'a été demandée peut-être une centaine de fois. Là, ça fait depuis le début de la disparition qu'on me demande de couvrir cette histoire. C'est pas toujours facile. Encore une fois, moi, vous le savez, j'ai besoin de l'accord de la famille. Ça me tente pas de couvrir une disparition récente pour des clics. En fait, je veux couvrir une disparition qui est récente pour aider. Puis j'attends juste que la famille me demande. Et ça a été le cas dans l'histoire de Jessie. Sa cousine Joanie m'a écrit pour me demander d'en parler. Bien sûr, avec l'accord des parents de Jessie, qui je juge c'est le plus important toujours. Fait que j'ai dit, ben oui, écoute, il n'y a pas beaucoup d'informations malheureusement. Fait que ce ne sera pas une vidéo super longue. Si vous avez suivi l'histoire depuis le début, je pense pas vous en apprendre plus. Mais je pense que c'est une bonne idée de un peu, pas condenser, mais tout mettre l'information en même place. Tout savoir de A à Z, qu'est-ce qui s'est passé, on en est où avec l'enquête, qu'est-ce qu'a dit sa cousine, qu'est-ce que dit la famille, qu'est-ce que dit l'enquêteur privé sur le dossier, fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que j'espère? J'espère qu'on la partage à la fin de la vidéo, allez voir mes médias sociaux, j'ai partagé encore une fois l'affiche de Jessie, on partage en grand nombre. Qu'est-ce que j'espère? J'espère peut-être recueillir de la nouvelle information. Je vais faire un appel à témoins à la fin de la vidéo. Et je veux aussi remercier Marie-Claude, qui est la responsable des recherches au niveau des bénévoles. Maryse pour MDIQ, Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, qui est l'enquêtrice privée associée au dossier. Et bien sûr, la cousine Joanie qui me fait confiance, qui m'a donné, qui a répondu à mes questions, qui m'a donné les informations manquantes. Puis je pense qu'avec ça, on est capable de se lancer dans la vidéo.
Écoutez le podcast Over and Out.
Voici les dernières nouvelles concernant la disparition de Jesse Duchesneau. La police de Québec intensifie ses recherches pour retrouver le jeune homme de 19 ans disparu depuis samedi dernier.
Donc, qu'est-ce qu'on sait de Jesse? Jesse Duchesneau, c'est un jeune homme de 19 ans qui vient de Passepébiac en Gaspésie. Pour les Français qui m'écoutent, Passepébiac, c'est comme... Ben, en fait, la Gaspésie, ça fait partie de la province de Québec, mais c'est loin, là. Si je pars de Montréal pour aller en Gaspésie, c'est peut-être 8 heures de route, puis Passepébiac, c'est comme un village, petite ville dans la région de la Gaspésie, qui est encore une fois assez éloignée de Montréal ou de Québec même. Jessie étudie pour être électricien au centre de formation professionnelle de Bonaventure, une école qui est également située en Gaspésie. On le décrit comme un gars super sociable, qui aime jaser avec tout le monde. C'est un bon gars qui aime faire la fête. Un gars simple, un gars de son âge, tu sais. Il est sportif, il a un bon groupe d'amis de qui il est très proche. Il aime faire la fête, il aime profiter de la vie, puis c'est ce qu'il faisait jusqu'à temps qu'il disparaisse. Donc, pour faire une petite ligne du temps rapide, ça commence le jeudi 2 novembre quand Jessie part de Passepébiac pour se rendre à Rimouski, qui est allé censé rejoindre ses amis de son cours d'électricien. Et rendu sur place, ses amis le convainquent d'aller à Québec pour un week-end pour aller faire la fête puis profiter de la ville de Québec. J'ai vraiment l'impression pour des gens qui sont plus en région, Québec, ben c'est une plus grosse ville. Fait que souvent, ils vont aller là pour faire la fête. Puis les gens de Québec, j'ai l'impression, les gens de Trois-Rivières, qui sont quand même deux grosses villes, pour faire la fête, eux, ils vont venir à Montréal. En tout cas, c'est l'impression. Fait que c'est pas rare que des jeunes de l'extérieur de Québec aillent à Québec pour aller dans les bars, pour souvent ils vont se louer un hôtel, ils vont faire la fête. Donc c'est le vendredi 4 novembre que Jessie part avec sa gang de gars d'école à Québec pour le week-end. Et c'est important de dire, Jessie, il y a une gang d'amis, il y a un groupe d'amis de qui il est très proche, c'est comme des amis d'enfance, c'est ses meilleurs amis, mais c'est pas avec ces gars-là qu'il est parti à Québec, en fait c'est ses amis de l'école. Fait que je pense que c'est des bons amis d'école, mais c'est pas ses amis d'enfance, c'est pas ses meilleurs amis qu'il connaît depuis si longtemps. C'est des bons amis, mais je pense pas qu'ils se connaissent depuis des années. Quoique Passepébiac, la Gaspésie, c'est pas si gros, mais c'est pas ses meilleurs amis. Donc c'est ce qui se passe. Jessie sort avec ses amis dans la soirée du vendredi 3 novembre. Il va dans le coin de la rue Saint-Joseph. Pour ceux qui connaissent pas ça, encore une fois, c'est comme une rue où il y a plusieurs bars. Fait que tu peux facilement faire comme une tournée des bars sur Saint-Joseph. Fait qu'il commence la soirée au bar Midnight Blue sur la rue du Parvis, qui est un peu comme une discothèque. Et là, j'ai essayé de recueillir le plus d'informations possible pour y aller heure par heure. C'est pas toujours facile parce qu'on se fie vraiment au témoignage de ses amis, des gens qui l'ont croisé. Mais ce qu'on sait, c'est que ils sont arrivés vers 22h, 23h au bar. Mais dès le début de la soirée, Jessie et ses amis faisaient déjà la fête. En fait, sont allés dans un party où ils ont commencé à boire et ensuite, ils ont pris l'autobus pour se rendre dans le coin le Saint-Roch, le quartier Saint-Roch où il y a les bars. De ce qu'on me dit, à ce moment-là, Jessie était déjà en état d'ébriété, puis c'est tellement normal, en fait, qu'est-ce que tu fais avant d'aller dans un bar? Tu fais un pre-drink chez un des amis, puis je pense que c'est pas mal ça qu'ils ont fait. Vers 1h30 du matin, Jessie ne semble pas bien aller. En fait, ses amis disent qu'il y a un comportement étrange, il y a quelque chose qui cloche. Il y a des témoins dans le bar qui l'ont vu en train de se parler à lui-même devant un miroir. C'est ça, il y a des réactions bizarres, il rit, il se parle tout seul. Clairement, Jessie n'est pas dans son état normal.
Il était encore au Midnight Blue, qui se parlait tout seul en gesticulant dans le miroir, puis que ça faisait rire les gens.
Il dit à ses amis qu'il va aller prendre de l'air dehors, là, qu'il va pas bien, il a besoin de prendre de l'air. Fait qu'il reste dehors quelques minutes, puis il quitte le bar.
1h30, là, moi, je veux pas te compter de menterie, là, mais je pense que il partait du Midnight Blue.
Pour aller au district.
Pour aller au district.
OK.
Parce qu'il a pas été longtemps au district, là, par rapport à l'autre bar, là.
OK, je comprends.
Puis... c'est un coup rendu au district, le comment ça s'est passé à l'intérieur, je le sais pas.
Ce qui aide beaucoup dans ce case-là, c'est que les policiers ont réussi à recueillir beaucoup d'enregistrements des caméras de surveillance des commerces du coin, mais même quand il a quitté les bars, là, on l'a vu dans la rue en train de marcher. Malheureusement, nous, le public, n'avons pas accès à tous les enregistrements des caméras de surveillance, mais on a quand même accès à quelques-uns, là, fait qu'on peut voir un peu son état quand il marche. On sait qu'à 2h15 du matin, des caméras de surveillance le filment en train de partir du bar Midnight Blue pour se rendre au district Saint-Joseph, qui est un autre bar pas très loin. À 3h10 du matin, il est aperçu encore une fois sur les caméras de surveillance sur la rue Saint-Joseph, coin rue Caron. Et ensuite, on le revoit à nouveau à 3h22 sur la rue Prince-Édouard, coin rue Dupont, par les caméras de surveillance du Flexi Gym. J'ai lu dans un article qu'on le voit en train de jogger. J'ai pas remarqué ça sur les caméras de surveillance. Peut-être un petit peu, mais en fait, j'ai pas remarqué ça. Quand j'ai parlé à sa cousine Joanie, elle m'a expliqué ça. Écoutez bien ça.
C'est ça, parce que l'entrevue à TVA, c'est de là sa part. Que okay. Lui, il dit qu'il a pris ses jambes à son cou comme s'il serait parti à la course puis serait parti dans la direction opposée. Premièrement, nous, on l'a pas vu courir. Puis deuxièmement, je veux dire, ton chum s'en va dans la direction opposée.
En courant.
Tu dois bien le savoir qu'il est intoxiqué aussi. Ben oui, puis tu le laisses en aller puis tu fais rien.
Ouais, non, c'est ça.
Finalement, à 4h40 du matin, il est aperçu en train de sortir du stationnement souterrain près de la rue Dupont, sur la rue Monseigneur Gauvreau. Les policiers, eux, ont accès aux caméras de surveillance dans le stationnement souterrain. Et apparemment, que Jesse, il est entré dans le stationnement et il s'est couché par terre. En fait, il s'est assoupi. T'sais, il est sûrement entré dans le stationnement pour dormir un peu. C'est ce qu'ils ont vu. Puis à 4h40 du matin, il quitte le stationnement. Et moi, je me pose beaucoup de questions à ce moment-là parce qu'il devait vraiment pas bien aller pour aller s'endormir dans un stationnement. Moi, je me disais, bon, peut-être qu'il attend ses amis. On est au début novembre, il fait froid, surtout la nuit, surtout à Québec, il fait très froid. Fait qu'il est peut-être dit, ah, je vais aller dans un stationnement intérieur qui est pas vraiment chauffé. Là. Il fait quand même froid, mais au moins, t'es à l'abri des intempéries, du vent, de la neige. S'il neige, il neigeait pas à ce moment-là. Mais je me demande aussi comment il se sentait à ce moment-là. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il se sentait seul? Tu sais, t'es dans une ville que tu connais pas, une grosse ville quand même. Je pense pas qu'il connaissait le quartier Saint-Roch, qui est, on va se dire, un quartier assez chaud de Québec. Là, on veut pas exagérer non plus, ça reste la ville de Québec, c'est normalement pas dangereux. Mais dans le quartier Saint-Roch, faut le dire, il y a beaucoup d'itinérance, il y a des centres, des refuges pour des sans-abri, des gens avec des problèmes de santé mentale, de consommation. Donc j'avoue, moi en tant que femme, pour marcher à 3h du matin seule dans le quartier Saint-Roch, je serais pas nécessairement à l'aise. Mais tu sais, je veux juste dire aussi, c'est pas toujours les gens sans-abri les plus dangereux. T'sais, on peut en avoir peur des fois quand on marche seul dans la rue, mais c'est rarement eux qui vont s'en prendre à toi. Mais bref, fait que Jesse est allé se réfugier dans le stationnement. En sortant du stationnement, on le voit qu'il repart vers la rivière Saint-Charles. On sait que sur le long de la rivière, il y a une piste cyclable. Fait que ça se peut qu'il ait marché là. On sait pas il s'en allait où. Mais il était peut-être perdu à ce moment-là. Peut-être qu'il savait pas il s'en allait. Peut-être qu'il essayait de rentrer chez son ami pour aller se coucher. On sait pas pourquoi il est parti dans cette direction-là. Et on n'a pas vu vers où il marchait. On l'a juste vu partir vers là. Mais après, à partir de là, il y a pas d'enregistrement de caméra de surveillance. Fait qu'on n'a aucune idée il est allé où. Après ça, on n'a plus de nouvelles de Jesse. Il a disparu et il n'est pas rentré coucher chez son ami comme prévu. On sait que le lendemain matin, le samedi matin 4 novembre, à 9h du matin, il y a une tour de téléphone qui a comme géolocalisé un peu le téléphone de Jesse dans le coin de la gare du Palais, qui est vraiment pas loin du quartier Saint-Roch. Fait que son téléphone a émis un signal, probablement un dernier signal à la gare du Palais. Dès le surlendemain, donc là, il a disparu dans la nuit du vendredi au samedi, dès le lundi 6 novembre, le matin, il y a la SPVQ, donc le service de police de la ville de Québec, qui érige un poste de commandement avec des policiers. On va poser des questions, on va faire du porte-à-porte, on commence l'enquête. Il y a aussi le gars de la Gaspésie qui est sur place pour commencer des recherches bénévolement. Le gars de la Gaspésie, je veux juste le dire, moi au début quand on disait ça, le gars de la Gaspésie, j'étais comme « quel gars, de quel gars on parle? » Mais le gars de la Gaspésie, c'est un acronyme, dans le fond c'est le groupe d'aide en recherche et sauvetage de la Gaspésie. C'est un organisme qui a principalement été impliqué dans les recherches à Chandler pour Nadia Lantin. J'ai déjà fait une vidéo sur Nadia Lantin. Fait qu'on a quand même deux personnes de la Gaspésie qui ont disparu dans un intervalle de 2 ans. Là. Ça fait quand même beaucoup. Ben, 2 cas qu'on connaît là, ensemble, ça fait quand même beaucoup. Ça me surprendrait, c'est pas relié, là, je pense vraiment pas. Mais ce qui est cool avec la Gaspésie, c'est des gens qui s'entraident beaucoup, qui se tiennent, qui sont fiers de la Gaspésie. Fait que s'il y a quelqu'un qui disparaît de la Gaspésie, ils vont tous mettre la main à la pâte pour aider.
Je voyais qu'il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de Gaspésiens à Québec qui s'en allaient faire des recherches présentement pour Jessie. Gaspésie, c'est grand, mais on est une petite famille. Fait que les gens, spontanément, ils ont décidé d'aller faire de l'aide, d'apporter de leur aide du mieux qu'ils pouvaient.
Pour avoir parlé avec Marie-Claude, justement, la responsable de l'organisme, elle me dit que, dès le départ, ils sont beaucoup impliqués dans les recherches. Ils font des groupes de bénévoles. Ils fouillent le quartier Saint-Roch de Fontencombe. Elle a dit, on a tout vérifié. Là. Il n'y a pas une pierre qui n'a pas été tournée. Et de ce qu'on m'a dit, les policiers sont très contents de leur aide. Ils l'apprécient beaucoup. Ils travaillent de pair ensemble. Ça, ça fait plaisir à voir. T'sais, il n'y a pas ce genre de compétition. Là. Non, c'est des bénévoles. On s'en sert pas. Non, dès le départ, les policiers apprécient qu'ils soient là. Et ça aide beaucoup.
Une chose qui a été remarquée, par contre, dans ce coin-là, c'est qu'il y a énormément de vêtements laissés à l'abandon un peu partout, dans les parcs, les poubelles publiques. J'ai jamais vu autant de vêtements dans des poubelles publiques.
Hmm.
On a reçu des photos quand les gens cherchaient Jessie. Les gens nous ont envoyé des photos pour nous demander, ben, y avait tout ça sur le dos, est-ce qu'il portait tel soulier, même si on disait très bien que il y avait des souliers blancs, puis un jeans avec les genoux troués. Puis bon. On avait quand même la description de ses vêtements. Mais tu sais, une chemise carottée noire et blanche, il y en a plusieurs modèles. Là.
Ouais.
Le carotté va changer de motif.
Ouais.
Chemise à l'autre, souvent. Fait que des chemises carottées, on en a vu. Là. Des chandails noirs aussi.
Et il y a beaucoup de monde qui sont venus aider parce que Ça a quand même interpellé beaucoup de monde, la disparition de Jessie. Encore une fois, c'est un gars de la Gaspésie, fait que les Gaspésiens ont voulu aider. Et les gens de Québec aussi, il y a un petit gars de 19 ans qui a disparu dans notre ville, là. On veut aider. On parle qu'il y avait en tout 300 bénévoles et plus qui ont aidé durant 2 semaines, puis il aurait fourni là, plus de 400 heures de recherche, ce qui est quand même beaucoup.
Tu sais, Victoria, si la famille était pas aussi acharné à vouloir le trouver, est-ce que les gens en parleraient autant?
Non, mais je dis tout le temps, ça dépend beaucoup des familles, malheureusement.
Ouais. Ben oui.
Je sais pas pour vous, mais même au niveau du partage d'affiches là, de la disparition de Jessie, j'ai vraiment l'impression que ça a été partagé en très grand nombre. Là. À ce moment-là, chaque story que je swipais sur Instagram, c'était tout le temps le visage de Jessie, puis ben, je trouve ça beau, tu sais, parce que ça aurait pu ne pas être pris au sérieux, tu sais, encore là, c'est un gars qui disparaît après une soirée au bar. J'aurais pu ne pas en parler, puis je suis contente qu'on en ait parlé autant. Tu sais, la preuve, on en a tellement parlé, je fais une vidéo, on en parle dans les médias, fait que ça, c'est cool. Ça devrait être ça dans tous les cas de disparition, c'est pas le cas malheureusement. Mais je suis contente pour la famille de Jessie qu'on en ait parlé autant. Le 9 novembre, au grand désarroi de la famille, après 3 jours de recherche intensive, on arrête les recherches intensives. Ça veut pas dire qu'on arrête de le chercher, mais on met plus autant d'effectifs de police sur place. Et là, le 10 novembre, on a un nouveau débouché dans l'enquête. Un nouvel indice apparaît. En fait, le téléphone cellulaire de Jessie est retrouvé dans le parking souterrain, le dernier endroit où il a été vu là, sur les caméras de surveillance, ou l'avant-dernier endroit. Fait que le téléphone n'était pas à la gare du Palais comme on le croyait. Bon, peut-être qu'il a été à la gare du Palais, puis il a été bougé dans le stationnement, mais comme on m'a expliqué, ça se peut aussi qu'il y avait juste comme une tour de téléphone, puis elle a comme capté à la gare du Palais, qui est comme environ à 800 mètres du stationnement souterrain, fait que ça se peut que ça ait capté comme à la gare du Palais, mais que le téléphone était là tout le long. Au même endroit, on retrouve aussi sa casquette. Son téléphone a été remis à la police qui
qui ont essayé d'y entrer, ou peut-être qu'ils ont réussi, mais je pense que ça n'a pas donné grand-chose, malheureusement.
Que son téléphone cellulaire aurait été retrouvé?
Oui, c'est exact. On aurait retrouvé son téléphone cellulaire dans un parking souterrain, tout près du Flexi-Gym, dans le sentier juste avant la rue du Pont.
Et qui est un des derniers endroits là, où il y avait une caméra de surveillance qui l'a vu passer là, au petit matin.
C'est exact. La caméra de surveillance l'aurait vu là jusqu'à 4h40 le matin. Par après, il aurait pris la direction S par le sentier de la piste cyclable.
Ouais. Et là, après ça, vraiment, là, on n'a plus aucune autre trace après ça.
Non, c'est exact. Après ça, on n'a plus d'autres caméras de surveillance. Les policiers nous avaient mentionné qu'il y avait 75 autres caméras de surveillance à visionner.
Mais je veux juste parler vite du téléphone. C'est vraiment bizarre quand même parce que, bon, premièrement, le téléphone a été...
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
C'est trouvé en dehors de son case de téléphone, fait que sa coque là, de téléphone. Je sais pas pour vous, mais c'est rare que j'enlève ma coque. En fait, je l'enlève comme jamais. Parce que c'est pas si facile à enlever, puis ben, je prends pour protéger mon téléphone, fait que je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même bizarre qu'il soit retrouvé, c'est ça, en dehors de son coffre. Mais aussi, écoutez bien ce qu'on dit par rapport à la personne qui l'a retrouvé.
Que le case était à part du téléphone.
Ouais, ça c'est bizarre aussi, là, on s'entend.
Puis tu sais, je veux dire... ma soeur a fait des recherches, ma famille a fait des recherches, tout le monde a passé par là des dizaines, vingtaines, cinquantaines de fois, là. Ben, il n'y a personne qui a vu le téléphone, là, puis après ça, le téléphone est retrouvé là.
Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a dit « Ah, oh, il est là comme par magie », puis il l'avait avec lui tout le long.
Ouais, on sait pas, puis on le saura peut-être pas non plus.
Donc, tu sais, le stationnement a été fouillé là, à plusieurs reprises par des bénévoles. Puis c'est un peu ça qu'on cherchait, des effets personnels, des vêtements, un téléphone, un porte-monnaie. C'est ça qu'on cherchait principalement. Fait que pourquoi le téléphone n'a pas été trouvé avant? Est-ce que quelqu'un l'avait en sa possession puis a fait semblant de le trouver? Ou bien le téléphone était vraiment bien caché, ça se peut. Mais je trouve ça quand même bizarre. Puis je pense que les gens qui ont cherché aussi... de fond en comble, ils trouvent ça bizarre aussi. À partir de la découverte du téléphone, c'est comme si les recherches prennent un souffle nouveau, mais les recherches reprennent de plus belle un peu. La MDIQ, là, Meurtre et disparition irrésolu du Québec, embarque aussi. Là, il y a une centaine de bénévoles qui sont au rendez-vous. On scrute les rues, les conteneurs à déchets, on fait voler des drones au-dessus de la baie de Beauport. Même la SQ, la Sûreté du Québec, envoie son unité nautique, ses plongeurs, ses hélicoptères. On cherche surtout la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent. Parce que là, à ce stade-ci, il faut quand même penser à ces scénarios qui sont très morbides. Ça doit être horrible pour les parents de dire là, qu'il faut chercher dans l'eau, dans les cours d'eau. Mais c'est important de le faire.
Selon les témoignages qu'on a eus, la rivière a toujours été basse, même que la SQ... ont marché le long dans la rivière pour vraiment regarder de voir si Jessica ne va pas se trouver.
Et ce qui a aidé à ce moment-là, c'est que le niveau de la rivière Saint-Charles était très, très bas. Donc, ça l'a vraiment aidé durant les recherches. Et ben, de ce qu'on me dit, là, si Jessie avait été dans la rivière Saint-Charles, on l'aurait retrouvé parce que ça a vraiment été fouillé par des professionnels. Puis le niveau, c'est ça, il n'était pas haut. Fait que... ça n'aurait pas été difficile de l'identifier dans l'eau. Est-ce qu'il aurait pu tomber justement dans la rivière Saint-Charles parce qu'il a été vu près de la rivière? Puis c'est vraiment une petite rivière, comme vraiment pas comme la Seine à Paris. J'essaie de comparer avec la France, c'est vraiment pas pareil, là. Mais c'est vraiment une rivière un peu qui traverse la ville. Il y a pas de courant, tu peux marcher juste à côté. C'est pas une rivière dans les bois avec des roches puis qu'il y a du courant, puis non, c'est vraiment pas ça. Fait qu'on peut se demander, est-ce que Jesse se serait arrêté sur le bord de la rivière pour comme se soulager, faire pipi? Tu sais, moi j'étais comme, ça pourrait arriver, tu sais, il a fait ça, il était un peu chaud, il était déjà pas dans son état naturel, fait qu'il a glissé, il a tombé puis il s'est noyé. Je me suis posé la question. J'en ai parlé avec Maryse, elle me dit que Jesse, comme Eduardo Malpica, on va y revenir, mais il y avait une phobie de l'eau. Fait qu'est-ce qui aurait fait ça, malgré que quand t'es en état d'ébriété, que t'as un peu plus de courage, là, tu prends plus des risques, fait peut-être. Mais, tu sais, je disais, ouais, mais Maryse, en même temps, s'il y avait à faire pipi, il aurait pu faire pipi dans un buisson, tu sais, pourquoi aller dans la rivière, tu sais, I guess qu'on sait pas, tu sais, puis je sais pas si on va le savoir un jour, mais on peut se poser ces questions-là. En ce moment, on peut vraiment penser à trois théories, là, tu sais, parce qu'on peut, éliminer la thèse du suicide, là, c'est vraiment pas une thèse considérée, je crois, à ce stade-ci, parce que je crois que tu fais pas ça après une soirée avec tes amis, puis bon, on peut jamais savoir, mais je pense pas que c'est une thèse qui est considérée à ce stade-ci. On peut, je crois, éliminer d'emblée la disparition volontaire. Ça a pas vraiment de sens, sa famille y croit pas du tout, puis c'est pas un scénario de fugue habituel. Tu sais, il sort du bar à 4h du matin, il vient d'aller dormir dans un stationnement, il a pas son téléphone, il est dans une ville qu'il connaît pas, il est seul. Il serait pas parti de même pour rebâtir sa vie. On peut se le dire clairement. La police a reçu quand même plusieurs signalements de des gens qui pensent avoir vu Jesse un peu partout à travers la province de Québec, mais tous les signalements ont été vérifiés et c'était pas Jesse. Ben là, on peut se diriger vers d'autres hypothèses, soit la disparition accidentelle, donc il y a eu un accident, il s'est retrouvé dans l'eau, un accident ou l'hypothèse criminelle. Et là, je veux juste faire une petite aparté, là, une petite pause. C'est fou parce qu'encore une fois, c'est comme une disparition, comme j'en ai parlé aux États-Unis, en France, tu sais, tous ces gars athlétiques dans vingtaine, des bons gars qui ont des bonnes notes, des beaux gars qui sortent dans les bars. Après, ils ont un comportement étrange, il y a quelque chose qui se passe dans le bar. Et là, ils disparaissent. Et dans plusieurs cas étudiés, là, on les retrouve dans l'eau. Je dis pas que c'est ça qui va arriver. On l'a vu avec Eduardo Malpica, qui était un prof à l'école. Il est sorti du bord, il n'était pas dans son état normal, et on l'a retrouvé dans la baie de Beauport, ce qui est une histoire complètement tragique. Puis là, ça me fait beaucoup penser à ça, puis ça me fait penser, j'en ai parlé dans mon livre « Gardez l'œil ouvert », on a affaire à des centaines de cas comme ça aux États-Unis et plus. Fait que je pouvais pas ne pas le dire ici, là.
Jesse, là, il était même pas rendu au bar le district Saint-Joseph. Il était encore au Midnight Blue. Qui se parlait tout seul en gesticulant dans le miroir, puis que ça faisait rire les gens.
On peut vraiment se demander à ce stade-ci, est-ce que Jesse a été drogué? Tu sais, il était pas dans son état normal. Pour que tu te parles toi-même devant un miroir, que tu ris seul, l'alcool fait rarement ça. Normalement, c'est une drogue. Fait que moi, je me suis posé la question, est-ce que Jesse aurait essayé des drogues à Québec? Tu sais, ça se peut. Mais selon sa famille, Jesse ne consommait pas de drogue. En fait, il aurait déjà pris de la marijuana, là, du pot, deux fois. Il aurait pris comme deux puffs de joint. Il a été malade, puis il a dit, moi, je touche plus à la drogue du tout. Fait que selon tous ses proches, Jesse ne consommait pas. Mais, je dois le dire, il y a toujours un mais. T'sais, c'est sûr que souvent, on va croire que quelqu'un ne consomme pas, même si tu es super proche de cette personne-là. Parfois, cette personne-là peut cacher sa consommation, récurrente ou pas. Ou peut-être que c'était la première fois, peut-être qu'il était à Québec, tout le monde consommait autour de lui, puis il a dit « Hey, why not? » Je l'essaie, puis ça m'a mal viré. T'sais, c'est un gars dans la vingtaine, il faut qu'il fasse ses expériences. Il était dans un party et apparemment que les gars de Québec avec qui il était, parce qu'il est allé dans un party puis il y avait d'autres mondes de Québec, là, et apparemment que ces gars-là, ils consomment de la drogue dure quand même régulièrement. Fait qu'on parlerait de GHB, de cocaïne. Fait que peut-être qu'il aurait essayé avec ces gars-là. Ou peut-être qu'il en a pris un peu contre son gré, tu sais. J'ai entendu parler d'un punch qu'il avait, un gros cocktail que tu te sers, là, qu'il avait dans le party. Est-ce qu'il aurait pu mettre du GHB dans le punch? Tout le monde en consomme, tout le monde fait la fête. Puis Jesse, peut-être qu'il savait même pas qu'il en avait dedans, puis il en a consommé. Puis comme c'était peut-être la première fois qu'il consommait, ça l'a vraiment affecté. Fait que, mais au final, je crois que à ce stade-ci, c'est pas si important. Qu'il ait consommé volontairement ou non, qu'il ait été drogué à son insu, ce qui serait quand même grave, le fait est que Jesse a disparu. Puis il faut qu'on le cherche, puis il faut qu'on le trouve, tu sais. Fait que l'avant, oui, est important, mais c'est surtout en ce moment les recherches qui sont importantes. Pis je me demande aussi s'il a été drogué à son insu dans le bar, admettons. Je l'ai demandé beaucoup aux gens, puis j'étais comme, c'est quoi l'intérêt de droguer un gars? Mettons, je sais qu'il y a des filles, beaucoup, tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi, des filles qui se font droguer dans des bars par la drogue du viol, justement le GHB, ben les gens qui droguent ont une idée derrière la tête, là, peut-être. Probablement pour profiter de cette fille-là qui se fait droguer dans un bar. Mais un gars qui est entouré de ses chums, pour quelle raison on le droguerait? T'sais, c'est quand même une bonne question à se poser. Est-ce que quelqu'un dans le bar aurait déjà drogué Jesse? Là, ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Puis en lisant les commentaires du bar Midnight Blue, ça serait déjà arrivé dans le passé. Au moment des faits, le bar Midnight Blue a partagé l'avis de disparition de Jesse. Mais malheureusement, il y a plusieurs commentaires apparemment qui ont été supprimés et même que ça a été bloqué, tu peux plus commenter. Il y a encore quelques commentaires que tu peux lire, mais là, tu peux plus commenter. Pourquoi? Tu sais, puis j'accuse personne, là, mais c'est juste, me semble, tu veux aider, tu sais, laisse les commentaires ouverts parce que dans les sections commentaires, on trouve beaucoup, beaucoup d'informations, surtout si le gars il a disparu. Après, t'as là ton bord, laisse les commentaires ouverts pour l'amour du ciel, parce que là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Hey, moi, je l'ai vu, ce gars-là, Jesse, ou je l'ai vu avec tel autre gars, puis hey, check, j'ai cette photo-là, tu sais, puis oui, tu peux contacter la famille, la police, mais souvent, tu vas laisser un commentaire sur des pages Facebook, ça arrive tellement souvent, fait que je comprends pas. Par exemple, il y a une fille qui apparemment a écrit un commentaire, son commentaire a été supprimé, et il y a un gars qui a comme pris un screenshot de son commentaire, qui l'a mis dans les commentaires, fait qu'on a pu le lire, et je vais vous le lire. « Ah oui, surtout que j'avais été avisé la sécurité que le jeune homme était seul, en misère, et que ça méritait une intervention. Pour finalement le mettre dehors sans aide. Honnêtement, beau post de merde. » C'est assez intéressant ça, parce que mettons que Jesse était dans un état de consommation ou d'ébriété, ou peu importe, assez avancé, qu'il avait un drôle de comportement, est-ce que c'est responsable de le jeter en dehors du bar? Puis ça, ça me fait vraiment penser à la disparition de Théo Hayes, le Belge qui a disparu en Australie. Il était vraiment pas dans son état normal et le bar l'a juste jeté. Ils l'ont sorti du bar. Et moi, je trouve ça personnellement irresponsable. Je dis pas que c'est ça qui est arrivé, on n'a aucune preuve de qu'est-ce qui est arrivé. Mais si ça, c'est arrivé, moi, je trouve ça irresponsable. Tu sais, c'est un gars de 19 ans, tu le jettes en dehors de ton bar, tu t'assures pas qu'il est correct, c'est un gars qui connaît pas la ville, il est perdu, il est pas avec ses chums, ou peut-être qu'il a été sorti pis ses chums l'ont suivi, mais tu sais, ça, on sait pas, là, ces informations-là. Fait que si c'est ça qui est arrivé, c'est un peu dommage, mais le bar a répondu à ce commentaire. Les faits ont été rétablis avec Madame Saint-Pierre, celle qui avait écrit le commentaire à la base. Le commentaire n'a pas été supprimé de notre côté. Sinon, il y a une autre fille qui a écrit un commentaire et je cite « Visiblement, je suis pas la seule qui a vécu un mauvais moment dans ce bar. Je trouve ça drôle, j'ai jamais eu de retour après avoir pris la peine de les aviser que j'avais été droguée dans leur établissement, mais avoir leurs commentaires, pourtant, ils ont pas l'air de faire full suivi. » Fait que si une fille qui dit avoir été droguée dans ce bar-là, est-ce que Jesse aurait pu être droguée? On peut se poser la question. Il y a une autre fille aussi qui écrit « Est-ce que cet incident vous fera revisiter un peu les multiples moments où quelqu'un a été drogué et où un incident qui s'est produit dans les derniers mois dans votre établissement? Personnellement, cela m'est arrivé à des amis aussi et plus qu'une fois à ma connaissance. Il y aurait probablement matière à investiguer ce qui se cache derrière ces événements, en espérant vraiment que le jeune homme soit retrouvé rapidement sain et sauf. » Fait que, visiblement, on peut voir qu'il y a quelques histoires de drogue pas volontaires dans ce bar-là, et malheureusement, c'est pas rare que des gens se font droguer dans les bars en général, ça arrive souvent, ça arrive partout dans le monde. Est-ce que c'est la responsabilité du bar? Je sais pas. Je veux pas me prononcer là-dessus, je sais pas si c'est la responsabilité de qui, mais c'est sûr que si t'es un propriétaire de bar, puis il y a des histoires de drogue, puis des filles qui se font droguer, puis des gars qui se font droguer dans ton bar, c'est sûr que tu dois enquêter. Fait que je sais pas, ça serait à surveiller. Je pense pas que les propriétaires ignorent les plaintes, là. Ça me surprendrait, là, il y aurait beaucoup à perdre. Mais faut se poser la question, est-ce que les clients qui se tiennent dans ce bar-là, ils ont l'habitude de droguer du monde? De ce que j'ai lu dans des articles qui sont sortis récemment, les amis de Jessie sont assez louches aussi. Ils ont changé leur version des faits à quelques reprises. Mais aussi, lors de la disparition de Jessie, ils ont attendu, dans le fond, il a disparu dans la nuit du vendredi au samedi. Ils ont attendu jusqu'au samedi 16h pour signaler la disparition de Jessie pour en fait en parler à ses parents. Fait qu'on parle d'une période de 12 heures qui savait pas il était où Jessie, il devait pas répondre à son téléphone, il était censé revenir coucher, il est pas rentré. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 12 heures-là? Est-ce qu'ils ont vraiment cherché Jessie? Est-ce qu'ils se sont vraiment inquiétés? On ne sait pas. Son frère a dit dans un article « Ses amis sont mystérieux. Ses amis changent beaucoup de fois la version des faits et ils donnent des mauvais angles sur les caméras. Un exemple que je peux vous donner, il y en a un qui disait qu'il était parti à 2h du bar et on les voit au bar jusqu'à 3h30 du matin. » Son frère continue « Ce stationnement-là, on le faisait à tous les jours, de 3 à 4 fois par jour. On cherchait et on ne trouvait rien. Et il y a une soirée qu'on a retrouvé son caisse de téléphone et le lendemain, on a retrouvé son cellulaire. Et 2 jours après, on a retrouvé sa casquette. Il n'était pas présent dans le parking. » C'est comme si le frère de Jessie sous-entendait que peut-être que les amis cachent quelque chose, peut-être qu'ils en savent plus que ce qu'ils prétendent. Je dis pas là, qu'ils s'en seraient pris à Jessie, je dis pas qu'ils l'auraient tué, qu'ils retiendraient contre son gré, c'est pas ça que je veux avancer. Mais peut-être effectivement qui cachent des affaires. Peut-être qu'ils ont consommé de la drogue, peut-être qu'ils en ont donné à Jessie volontairement contre son gré, puis là, ils veulent pas le dire, mais c'est tellement pas important. En ce moment, on veut juste retrouver Jessie. Que t'aies consommé de la drogue ou pas, en ce moment, on s'en fout. T'sais, faut juste parler. Fais juste parler. Il dit aussi, c'est peut-être des preuves de l'agresseur qui essaie de brouiller les pistes pour qu'on cherche à la mauvaise place ou un truc du genre. Donc, je pense que à ce stade-ci, on peut vraiment évaluer la piste criminelle. En ce moment, comment on pourrait aider? Ça prend des drones pour aller fouiller, là, pour survoler en fait les berges du fleuve Saint-Laurent, les bords du fleuve Saint-Laurent. Mais là, plus le temps avance, plus c'est dur. C'est comme si la température joue contre nous. Plus il va faire froid, plus ça va être glacé, plus ça va être difficile. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui est en possession, ou si vous êtes en possession d'un drone certifié que vous savez le voler, puis vous avez le droit de le faire. Je vais laisser le contact du gars de la Gaspésie, l'organisme. Vous pourriez vraiment aider, là, si vous les contactez, vous dites « Hey, moi, je peux donner quel temps d'heure pour vous aider avec les recherches. » Ça serait super cool. Aussi, ben, je fais un genre d'appel à témoins. Si vous étiez au district ou au Midnight Blue, ou même dans le quartier Saint-Roch, dans la nuit du 3 au 4, c'est possible que vous puissiez aider. Et je suis sûre à 100% que quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui était dans ces bars-là, dans la nuit du vendredi 3 novembre au 4 novembre. C'est sûr, sûr, sûr. Essayez de vous rappeler. Peut-être qu'il va y avoir des détails que vous dites, c'est pas important, ça aidera pas, mais non, ça peut vraiment aider. Juste dans la ligne du temps, si vous savez l'heure exacte, si vous pensez avoir croisé Jessie, si vous avez vu quelque chose de bizarre dans le bar, s'il y a eu un incident qui vous a dit, hey, c'est weird ça, je me rappelle de cet incident-là. Je vais mettre les personnes à contacter dans la barre d'infos. Ça se peut aussi que vous ayez peur de contacter sous votre nom. Vous pouvez le faire probablement de manière anonyme. Ou si vous voulez pas parler avec la police directement, vous pouvez contacter l'organisme Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Eux, ils vont pouvoir vous aider avec ça. Ça peut être même juste un petit message sur Facebook Messenger. Ça va vraiment aider. Pour terminer, je vais faire une rapide description de Jessie. Donc, Jessie mesure 6 pieds 1. Il a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une chemise à carreaux noir et blanc, un manteau brun avec du mouton là, au niveau du collet, des jeans bleu pâle avec des trous aux genoux, une casquette noire avec un logo blanc. Ça aussi, c'est important la description des vêtements parce que si tu trouves un de ces vêtements-là en marchant, mettons, dans la ville, prenez-le en photo, ou en fait, prenez le morceau de vêtement tout court, ça peut aider. Je vais mettre les informations dans la barre de description, donc numéro de téléphone à joindre, page Facebook à joindre, si vous avez quelconque information, ça peut énormément aidé. Je m'étais promis de faire ça, puis j'ai complètement oublié durant le tournage. Si vous voulez aider le gars de la Gaspésie ou même MDIQ, si vous voulez aider dans les recherches, mais vous pouvez pas être là, si vous voulez contribuer à cette vidéo, même pas cette vidéo, à la recherche de Jessie, je vais mettre les liens de MDIQ, leur GoFundMe, mais aussi le gars de la Gaspésie. Si vous voulez donner un petit 1$, 10$, 100$, 25 sous, ça peut toujours aider. Puis c'est encore une fois votre manière de contribuer dans des affaires de disparition. Partager la vie, faire des dons, signer des pétitions quand il y en a, puis en parler autour de vous. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, mais des petits dons, si vous êtes capable de donner, c'est toujours, toujours apprécié. Puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va aider. Partagez la vidéo en grand nombre sur votre Facebook. Partagez la vie de disparition, puis mais gardez l'œil ouvert. Over and out.
Ben, c'est sûr que s'ils pourraient vous partager la vidéo le plus possible, peu importe si vous avez une information, que même si vous pensez que c'est pas important, n'importe quoi qui peut nous être utile, ça va être très apprécié.
Oui, de toute façon, je vais mettre des liens là, dans le bord d'infos des gens, tu sais, ou contacter. Puis on va, c'est cette journée-là, je vais repartager la vie de disparition, puis je pense que ça va être pas mal partagé encore.
Puis je te remercie aussi de nous donner cette visibilité.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.